Pour commencer, je vais cafeter. Ça veut dire en français faire de la délation, ça veut dire dénoncer. Alors je dénonce Monique Prindesis et Yves Ladore. Ce n'est qu'hier que j'ai appris que j'allais intervenir sur le thème qu'on m'a proposé, non, avant-hier on va dire, pas hier. Et donc j'ai été obligé en quelques heures, pas d'improviser, mais presque. Et donc, ce que je vais vous livrer, c'est une série d'interrogations à propos de l'EPU dans les milieux académiques. Pour autant, je vous rassure, je connais l'EPU quand même. Et puis, je collabore avec l'EIP depuis un certain nombre d'années, donc ce n'est pas très étonnant le coup qu'ils m'ont fait. Alors, j'en viens à l'EPU dans les milieux académiques. Alors, tout d'abord, un constat. Je suis, enfin, en tant qu'universitaire, je feuillette régulièrement les revues qui intéressent mon domaine. L'EPU est passé inaperçu. Dans les revues de droit ou dans les revues ou les publications spécialisées en matière de sciences politiques ou de sociologie des relations internationales, l'EPU ne figure quasiment pas. Alors, pourquoi ce silence ? Ce silence vient probablement de plusieurs facteurs, mais à mon avis, le plus important d'entre eux, c'est le fait que les juristes et les politologues, de manière générale, ne s'intéressent pas à ce type de procédure parce que ça ne débouche pas sur des actes obligatoires. Il y a une expression en français pour parler de ce type de procédure, on appelle ça la littérature grise. C'est-à-dire qu'à l'inverse, par exemple, au premier niveau des arrêts rendus par les différentes juridictions internationales en matière de droits de l'homme, à la différence un peu en dessous des constatations des différents comités des droits de l'homme, ici, on a affaire à un dialogue qui débouche sur des recommandations. Et donc, les milieux de la recherche, et particulièrement les juristes, ont quasiment passé sous silence cette procédure. Et pourtant, c'est une innovation. C'est une innovation à plusieurs points de vue. C'est une innovation du point de vue procédural. Les États ne sont pas confrontés à des juges, ils ne sont pas confrontés à des organes composés d'experts indépendants, ils ne sont pas confrontés à ce qu'on appelle les procédures extra-conventionnelles, les rapporteurs spéciaux, etc., etc. Ils sont confrontés aux autres États. C'est-à-dire que chaque État doit rendre compte, pas rendre des comptes, mais rendre compte face à ses pairs. Et donc, c'est une procédure politique de jugement par les pairs. Vous allez me dire, ça existait peut-être un petit peu avant, quand la fameuse commission des droits de l'homme auquel a succédé le Conseil existait, mais ce n'est pas la même chose. Parce que la commission, l'ancienne commission, se saisissait de problèmes en fonction d'alliances politiques. Ce qui fait que pour peu qu'un État dispose au sein de la commission de relais assez importants et suffisants, du coup la commission ne pouvait pas statuer. Or, avec le Conseil, avec le PU, ce qui est une innovation, c'est son caractère systématique. C'est-à-dire que tous les États sont obligés d'y passer selon un ordonnancement qui est relativement facile à comprendre. Ça, c'est l'innovation procédurale. Maintenant, quant à l'innovation de fond, c'est que la résolution qui crée le Conseil précise les termes de référence. C'est-à-dire que l'appréciation des États, le passage des États devant le PU, se fait sur la base de textes précis. En gros, si mes souvenirs sont bons, il se fait sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il se fait sur la base des traités que chaque État, auxquels chaque État est parti, et il se fait également sur la base de ce qu'on appelle le droit international humanitaire, en gros, les 4 conventions de Genève, plus leurs 2 protocoles. Donc, c'est une procédure nouvelle de jugement par les pairs, mais l'innovation consiste en ce que c'est une procédure d'évaluation par les pairs sur une base précise. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une innovation. Alors, j'en viens maintenant à mon deuxième point. Ça, c'était juste un point liminaire. À mon deuxième point, enfin, à mes points suivants, il y en a 3 autres, c'est qu'est-ce que ça ouvre comme perspective ? Si l'on résume le PU à l'essentiel, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 3 types d'acteurs. Nous avons l'État lui-même, celui qui est examiné. Au passage, le terme d'examen n'a jamais été utilisé avant en droit international. C'est la première fois qu'on qualifie une procédure d'examen. Je ferme ma parenthèse. Donc nous avons l'État qui est examiné. Nous avons les autres États. Et nous avons enfin ce qu'on appelle la société civile. Et c'est par elle que je vais commencer. La société civile, qu'est-ce qu'on appelle la société civile ? C'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Enfin, qu'importe, c'est pour la commodité du discours, on peut retenir. Jusqu'à maintenant, soit dans les procédures devant les comités, soit pour les procédures extra-conventionnelles. Chaque association, chaque ONG, intervenait en fonction d'un objet qui lui est propre. Torture, droit des femmes, droit des enfants, etc., etc. Donc, il y avait un éclatement de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire que chacune se spécialisait dans un domaine et défendait bec et ongles son domaine. Pour vous donner une idée de cet éclatement, pour les besoins de l'intervention de ce matin, tout à l'heure, j'ai été compté à la maison des associations, à la porte suivante, le nombre d'associations qui sont domiciliées dans ces locaux. Vous savez combien il y en a ? Je vous le donne en mille. Il y en a 84. J'ai compté 84 boîtes aux lettres. Chacune dans son domaine précis. Bon, sur les 84, j'en conviens, il y en a probablement qui sont fort éloignés du domaine des droits de l'homme, dans 84. Alors, en quoi le PU a une influence sur ce qu'on appelle la société civile ? C'est que dans la mesure où il s'agit d'apprécier la pratique d'un État à propos de l'ensemble du corpus qu'on appelle droit international, ça a causé une obligation de travailler ensemble. C'est ce qu'on appelle les coalitions. Je crois que on vous en a parlé, les coalitions. Donc, premier effet de l'EPU, c'est l'obligation d'avoir une vue synthétique sur un État. Et c'est l'obligation, donc, pour les associations qui travaillent dans ce domaine, de collaborer. Ce n'est pas toujours facile, mais ça devient de plus en plus nécessaire. Et donc, premier angle mort de la recherche académique en matière de la recherche académique sur les conséquences de l'EPU, c'est que ce phénomène n'a pas été étudié. Et il devrait l'être. Il devrait l'être, pas uniquement du point de vue organisationnel, mais également du point de vue du contenu. J'ai dit que dans le PU, il y avait 3 acteurs. Il y avait les associations, la société civile, il y a les États. Jusqu'à maintenant, pour avoir une appréciation de la pratique que dit respecter un État, je dis bien que dit respecter, il fallait, et je l'ai fait par exemple pour l'Algérie, j'avais fait une étude sur justement l'Algérie devant les comités des droits de l'homme, il fallait, au bas mot, consulté à peu près une dizaine de milliers de pages. Une dizaine de milliers de pages, c'est-à-dire les rapports des Algériens devant tous les comités, les rapports de l'Algérie devant tous les comités, les observations du comité, etc. Il fallait ensuite aller chercher dans les sites internet des différentes procédures extraconventionnelles ce qui s'est passé à propos de l'Algérie. Tandis que maintenant, quand vous prenez la procédure EPU, vous avez le rapport. N'importe quel État produit un rapport. Mais sauf que ce rapport, il fait maximum 20 pages. Il est accompagné du document de synthèse élaboré par les services des Nations Unies sur ce que disent tous les organes relatifs aux droits de l'homme à propos de ce pays. Par exemple, on va signaler l'ensemble des communications introduites devant les comités. On va signaler les retards dans la production de rapports. On va signaler les communications qui ont débouché sur des constats de violation et qui n'ont pas été respectés, etc., etc. Un exemple, en matière de retard dans la production de rapports, vous savez à combien il se monte pour certains pays ? À plus de 25 ans. Il y a des États qui ont des retards de plus de 25 ans. Donc maintenant, à propos de chaque État, dans là, ce qu'on appelle la compilation que doivent faire les services des Nations Unies, vous avez une synthèse sur ces États. Idem dans le troisième document, qui est une compilation aussi des contributions des ONG. Donc, s'agissant de la pratique des États, l'EPU a permis que soit rassemblé et synthétisé avec les références tout ce qui a trait à la pratique d'un État. Et ça n'existait pas avant parce qu'il fallait chercher dans les rapports annuels ou bisannuels de tous les comités et il y en a, si mes souvenirs sont bons, il y en a 7, sans compter les procédures extra-conventionnelles. Donc voilà le deuxième point qui mérite que la recherche académique s'y intéresse. Troisième point, on a dit que dans le PU, il y a la société civile, il y a les États, et il y a les juges, c'est-à-dire les autres États. Les autres États, là aussi, une première étude a été faite à propos des premières sessions de l'EPU. Elle a permis de dégager un certain nombre de conclusions qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, que les États saisissent l'opportunité de l'EPU, non pas pour amener l'État examiné à une meilleure pratique, mais très souvent pour le féliciter. Yves me racontait hier que il y avait des États qui avaient appelé la Tunisie du temps de Ben Ali, à généraliser, à faire partager son expérience de création de ce qu'on appelle les gongos, c'est-à-dire les ONG qui sont plutôt des ONG étatiques. Donc, on s'aperçoit que la démarche voulue à l'origine, parce que la démarche de l'EPU à l'origine, c'est que chaque État est juge du respect des droits de l'homme par tous les autres États. Ça existait un peu avant dans les autres comités, c'est ce qu'on appelle le recours étatique. Or, quand on prend la pratique des différents comités des Nations Unies sur le recours étatique, depuis leur existence, il n'y a jamais eu, je dis bien jamais, de recours d'un État contre un autre État pour non-respect des droits de l'homme. Donc, mais en même temps, c'est une limite, c'est évident. Ceci dit, au passage, même dans les systèmes un peu plus développés et un peu plus, on va dire, un peu plus perfectionné. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, là aussi, on constate les mêmes carences. La Convention européenne des droits de l'homme prévoit le recours étatique, c'est-à-dire la possibilité pour un État d'introduire un recours contre un autre État, même si ce n'est pas, même si les droits violés ne sont pas de ceux de ses citoyens. La pratique de l'Union européenne, enfin de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme montre qu'au maximum, il y en a eu 5 ou 6, et qu'ils étaient tous motivés par des motivation politique. Donc, malgré ça, malgré le fait que les États ne sont guère enclins à critiquer d'autres États pour des motifs liés aux droits de l'homme. Mais malgré ça, ben justement à cause de ça, si on fait le tableau de quel État est intervenu à propos de quel État, eh ben on peut dresser une sorte de géopolitique des relations internationales. Et donc on peut avoir un panorama des relations de chaque État avec les autres États en matière de droits de l'homme. Et au passage, par exemple, les États membres du Conseil de sécurité, et je pense en particulier au Royaume-Uni, aux États-Unis et à la France, ne sont jamais intervenus. Par contre, ceux qui interviennent le plus souvent, ce sont les pays scandinaves. De la même manière, on s'aperçoit que quand c'est l'Algérie qui passe, ou c'est la Tunisie qui passe, ou c'est le Maroc, etc., on s'aperçoit que interviennent dans le débat à propos de la pratique de cet État, donc interviennent ceux qui lui sont proches et qui souvent appartiennent aux mêmes organisations régionales, organisations de la Conférence islamique, Ligue arabe ou Union africaine, etc., etc. Et ben ça aussi, ça mérite d'être creusé par la recherche académique. Donc, trois directions pour la recherche académique à partir des trois acteurs de l'EPU, voir dans quelle mesure le paysage de la société civile a été modifié et se modifie, voir dans quelle mesure les États, du fait de l'EPU, modifient ou ne modifient pas leurs activités, et voir troisièmement dans quelle mesure on peut dégager une sorte de sociologie des relations internationales. Voilà, et je vous remercie.
Merci Ramdan. Pour la synthèse également dans le cadre de la recherche des milieux académiques. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la parole pour un petit quart d'heure de questions et réponses. Qui souhaite intervenir ?